Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview de Femmes Inspirantes. Et aujourd'hui, je vous présente Laurence Luyetané, auteure de plusieurs livres, qui va nous parler aujourd'hui de développement personnel. Bonjour Laurence.
Bonjour Lucie, merci de me recevoir.
Alors, est-ce qu'on peut commencer un petit peu par votre parcours? Comment est-ce que vous êtes arrivée jusqu'aujourd'hui, jusque là où vous êtes aujourd'hui?
Alors, le développement personnel, je veux dire, j'ai grandi avec. Et ça fait partie de toute ma vie, puisque en fait, très jeune, moi, j'avais 7 ans, j'avais accès à certaines dimensions. À l'âge de 11 ans, je faisais du judo et dans ce dojo, il y avait des cours de yoga. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais j'ai entendu yoga pour la première fois. J'ai dit « waouh, je veux faire du yoga ». Puis bon, ma mère ne savait pas ce que c'était, elle a dit non. Et c'est plus tard, quand j'étais en fac, donc à 17 ans, 18 ans à peine, que j'ai démarré le yoga. Voilà. Et de là, j'étais sportive, j'étais souple, donc au niveau des postures, je voyais ça, je ne voyais pas forcément ce qu'il y avait au-delà du yoga. Mais très tôt, j'ai eu envie de devenir prof de yoga. Il a fallu que j'attende d'avoir l'âge qu'on demandait au niveau de la Fédération des enseignants de yoga pour pouvoir faire la formation. Ensuite, j'ai fait ma formation et j'ai commencé à devenir prof de yoga. Et ensuite, donc, il y a eu toute une évolution, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait un peu plus de 30 ans que je suis installée et que mon métier a évolué au fur et à mesure de ma propre progression, à travers moi, mon cheminement personnel et mon cheminement professionnel.
Donc, que vous êtes installée, mais pas en tant que prof de yoga?
Alors, au départ, j'étais en tant que professeur de yoga. Alors, j'enseigne toujours. Je ne travaille que en individuel ou pour des entreprises. Je ne fais plus les groupes puisque j'amène vraiment un travail profond. Et puis, de professeur de yoga, je suis devenue psychothérapeute. Alors, pas avec une baguette magique comme ça, mais parce qu'en fait, mes clients, les élèves à l'époque en yoga, venaient me voir pour des problèmes, en fait, de ce qu'ils appelaient gestion du stress. Mais c'était, en fait, des demandes thérapeutiques. Donc, moi-même, j'ai commencé un travail de thérapie. J'avais 23 ans. Donc, j'ai fait tout un travail pendant des années et des années au niveau avec des thérapeutes de diverses obédiences, en travail psychocorporel et tout ça, de thérapie ARD d'ailleurs à l'époque. Et donc, je me suis formée en tant que psychothérapeute. Donc, je suis jungienne, psychocorporelle. Je travaille aussi en psychologie positive, psychologie énergétique et aujourd'hui, plus particulièrement, vraiment dans une approche spirituelle, puisque je me reconnaissais plus depuis ces dernières années sur l'approche thérapeutique à laquelle j'avais été formée. J'ai exercé en tant que psychothérapeute pendant un peu plus de 22 ans, donc sur des thérapies longues avec des cas. J'ai une très très bonne connaissance de l'humain au niveau relationnel. Et quoi vous dire d'autre? Et donc ensuite, j'ai une formation en tant que coach. Très très spécifique et aujourd'hui donc mon métier c'est vraiment cette capacité c'est de savoir exactement là où est le grain de sable à la fois avec ma posture. Alors j'aime pas m'enfermer dans des étiquettes thérapeute, coach, ça c'est
mentor.
Des choses
aussi vous utilisez?
Pardon?
Vous utilisez aussi le mot mentor?
Oui, parce que je suis formée vraiment au mentoring, que j'ai un mentor aux États-Unis, qui m'a beaucoup apporté. Donc, c'est une posture bien spécifique, le mentoring, qui ne s'adresse pas à tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant que je me présente non plus en tant que mentor. Voilà, moi, je veux dire, j'accompagne les personnes dans leur chemin d'évolution. Aujourd'hui, par contre, si j'ai quelqu'un qui vient en thérapie, qui est en grave dépression, qui demande vraiment un travail de psychothérapie tel que j'ai pu en mener pendant longtemps, je ne prends plus parce que ce n'est plus, c'est plus mon truc. En revanche, je m'adresse à des personnes qui ont déjà fait un solide travail sur elles et qui veulent passer vraiment à un autre niveau, donc un autre niveau de conscience et avancer, vraiment rayonner en fait, travailler heart-centered, c'est-à-dire vraiment au niveau du cœur, joindre le matériel, la matière et le spirituel. Parce que malheureusement, souvent, il y a les personnes où le spirituel, ça les intéresse pas parce qu'il y a une confusion entre le spirituel et la religion. Donc déjà, là, il y a des choses à régler. Et puis alors après, il y a ceux qui sont dans la spiritualité qui touchent pas terre. Et on peut pas être l'un ou l'autre. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Et c'est comment est-ce qu'on va joindre les deux, c'est-à-dire jusqu'à présent, au niveau de l'humanité, on était plutôt sur la ligne horizontale, cause à effet, hein, et aujourd'hui, il y a besoin de passer par la verticalisation. Et donc, moi, c'est, en fait, c'est ce croisement-là, c'est là que je me situe et c'est là où j'accompagne les personnes.
Est-ce que vous diriez que vous avez en anglais background, une culture religieuse ou certains, alors je dis religieuse pour certaines grandes inspirations, on va dire, dans votre éducation, dans votre façon de voir l'humain, la spiritualité, dans votre approche?
Oui, alors je vais pour traduire peut-être autrement, vous voulez dire une tradition particulière,
par exemple.
Bon, alors bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi dans une famille athée.
D'accord.
Pas de catéchisme, rien. En revanche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en démarrant, à l'âge de 7 ans, j'avais la conscience d'autres vies, d'autres choses. Mm-hmm. Voilà. C'est quelque chose qui m'a toujours habité. J'ai toujours été très en connexion avec une autre dimension. Ensuite, quand j'ai commencé le yoga, alors pas au tout début parce que c'était surtout postural, mais ensuite au moment où je me suis formée en tant que professeure, j'ai travaillé avec une enseignante qui nous amenait bien sûr les textes sacrés du yoga. J'ai beaucoup travaillé Sri Aurobindo, MR, Ramana Maharshi. Lors de ma formation en tant que professeur de yoga, eh bien, on a histoire comparée des religions, donc ça m'a intéressé beaucoup. Ensuite, personnellement, j'ai eu un parcours bien spécifique, donc où même si naturellement j'étais ouverte, je vais dire, à ce qui était oriental, à l'hindouisme, au bouddhisme. J'ai eu toute une culture chrétienne avec différentes obédiences. Puis je suis revenue au bouddhisme. Je suis passée aussi par le judaïsme. Aujourd'hui, je suis à la fois dans le christianisme, mais dans une dynamique, notamment la notion du courant miracle qui utilise un vocabulaire chrétien mais qui est sur quelque chose d'universel. Si vous voulez, en fait, j'ai une bonne connaissance de l'histoire comparée des religions, à la fois dans la théorie, dans ce que j'ai appris, mais surtout dans une pratique spirituelle de diverses obédiences dans lesquelles vraiment je suis allée pendant plusieurs années. Et ce qui était marrant d'ailleurs, c'est qu'à chaque fois quand j'étais dans une voie, j'amenais toujours quelque chose d'une autre voie. Mmh. Parce que pour moi, je n'ai jamais pu m'enfermer dans quelque chose. Pour moi, je suis dans quelque chose qui est universel, qui va se dire peut-être dans une tradition d'une certaine manière, dans une autre d'une autre manière. Mais je ne peux pas dire, voilà, je suis là et puis là. Pour moi, non. Parce qu'en fait, je pense, alors ça n'engage que moi, que ces traditions, tradérer, c'est transmettre. On transmet la vie avec un V majuscule, hein, c'est-à-dire notre rapport avec l'univers. Et en fait, c'est notre manière de penser l'univers, de penser ce qui est beaucoup plus grand que nous. Voilà, parce que, à mon sens, il y a toujours un moment où on se pose la question « Mais qui suis-je ? Mm-hmm. Qu'est-ce que je fais sur Terre ?» Voilà.
Ok. Ça me parle beaucoup, cette approche de mélanger ou d'unir pas mal de traditions. Moi aussi, je suis un peu dans cette veine-là. Est-ce que c'est pas trop compliqué parfois les chocs énergétiques qu'il y a entre les idées en fait d'une tradition et d'une autre, est-ce que vous arrivez à bien les entrelacer ou est-ce qu'il y aurait un conseil à partager justement pour les personnes qui comme ça vont passer quelques années dans le bouddhisme avant d'aller dans une autre tradition?
Oui, alors, je pense que si on passe quelques années dans le bouddhisme, bon, peu importe, mais puis après on se dit je vais ailleurs, mais ça correspond à rien. Voilà. Moi, je vais dire, je me suis pas dit, c'est vraiment une aspiration profonde. Je parle la même langue. Vous savez, imaginez que cette interview, elle soit traduite en espagnol, elle soit traduite en anglais. Mm-hmm. On va dire, la personne qui va le traduire, l'interprète, va bien dire le même contenu, mais avec un langage différent que les hispaniques vont entendre, vont comprendre, que les anglais vont comprendre, ou les allemands, etc. D'accord ? Mais le contenu reste le même. Le contenant extérieur, la forme va différer dans la langue. Eh bien, pour moi, en tout cas dans mon parcours, le contenu reste le même. C'est le lien avec le grand tout. Après, il prend une forme dans un sens, une forme dans un autre. Et moi, ça ne me pose aucun problème. Mais parce que c'est intégré.
Ok.
Si on le cherche sur un plan purement intellectuel, effectivement, là, ça peut-être créer des heurts. Mais pas si c'est intégré, je veux dire, c'est une aspiration ce que je vais appeler, pour moi, l'universel.
Hmm. Je parlais de la phase d'intégration, justement, quand on est dans un apprentissage, en formation, en fait, sur différents sujets. Ok, et donc le contenu, donc après il va se décliner en plein de façons, et donc vous avez notamment écrit 14 livres. Comment c'est venu, qu'est-ce qui nous pousse à écrire autant de livres?
Ah, et je m'arrêterai pas là, je vous rassure.
Ah, très bien.
Ah oui, non, ça serait. Écoutez, je crois qu'alors par contre, vous voyez, quand on parlait tout à l'heure d'étiquette et je vous ai dit, bon, moi j'ai du mal à me définir ceci ou cela, par contre, je me sens totalement auteur et dans la transmission. Mm-hmm. Dans la transmission. Donc en fait, qu'est-ce qui m'a poussée à écrire autant de livres? D'abord, ça, je me souviens qu'en 89, j'étais au milieu des bois en Limousin, je sortais d'un stage. Je sais plus, je crois, de numérologie, quelque chose comme ça. Et la personne avait écrit des livres et moi, j'avais envie d'écrire et j'ai su qu'un jour, j'écrirais. Je ne savais pas quoi, ni quand, mais voilà. Et ça s'est fait. Donc, c'est vrai qu'au départ, si vous voulez, mes livres ont été plus au niveau technique, c'est-à-dire sur une pratique particulière comme le yoga, comme la méditation, l'utilisation des mandalas dans une voie thérapeutique. Donc, si vous voulez, voilà, les personnes achetaient un livre avec un sujet d'un espace, si vous voulez, où j'ai une expertise d'utilisation, d'intégration dans ma pratique. Et puis, alors, dans le lot, j'en ai aussi quand même en littérature, donc, qui est autre chose. C'est des petites nouvelles, mais bon, pour lesquels j'ai eu d'ailleurs un prix littéraire, mais qui amène aussi à une réflexion sur le sens de sa vie. Mm-hmm. Puis, donc depuis 2017, c'est vrai que j'ai un livre qui est sorti qui s'appelle « Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé » chez Duno, qui est un livre d'inspiration vraiment pour travailler autour du sens de sa vie. Donc là, je suis plus sur une technique, mais beaucoup plus un peu un électrochoc. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui me pousse? C'est parce que c'est vraiment mon... C'est ce qui me nourrit. C'est une énergie qui est là, qui coule et que je transmets à travers mes livres, que je transmets à travers les conférences que je peux faire et également à travers les personnes qui travaillent avec moi.
D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver ces livres ?
Eh bien, Amazon, la Fnac, Cultura, les libraires, puisque je suis chez Duno, Interédition, Erol. Voilà, certains sont traduits à l'étranger, dont un prochainement en Espagne d'ailleurs. Voilà, donc on les trouve facilement.
Ok. Donc dans le circuit d'édition classique.
Oui.
D'accord. Très bien.
Je ne sais pas ce que vous appelez classique.
Parce que le livre que j'ai publié des femmes inspirantes est du coup hors circuit classique de l'édition puisqu'il est dans le circuit de l'auto-édition.
Et ah d'accord, de l'auto-édition. Non. Moi je suis chez des éditeurs. Donc oui, avec les distributeurs et tout. Donc voilà. Oui.
Ok.
D'accord. Oui, non, je comprenais pas le.
Il existe plein de circuits et de façons de publier du contenu, donc c'est pour ça. Ok, il y a un autre livre que vous avez écrit sur les entrepreneurs. Ça va intéresser pas mal de personnes qui suivent cette chaîne, je pense.
Oui, c'est « Entrepreneur, adopter la bonne attitude ». Voilà, tout ce que les autres ouvrages ne vous disent pas et que vous devez savoir pour réussir. Voilà, oui, ça c'est un livre que j'ai eu à cœur de faire. Alors là, bon, qui est plus… technique, assez balisée, dans la mesure, donc, comme je vous disais, ça fait plus de 30 ans que je suis à mon compte, que je suis installée, que j'accompagne pas mal de professionnels, donc de différents métiers, j'accompagne des médecins, j'ai beaucoup accompagné des personnes du domaine médical, paramédical, donc c'est vraiment au niveau professionnel, c'est une certaine dynamique. Et depuis donc quelques temps, comme il y a une certaine facilité de pouvoir s'installer avec l'auto-entrepreneuriat, enfin, je crois que maintenant on appelle ça la micro-entreprise, les personnes souvent s'installent pas forcément pour les bonnes raisons. Il y a la facilité, ce qui n'a pas été le cas, moi, quand je me suis installée il y a 30 ans. Là, c'était on plonge dans le grand bain. Il n'y avait pas de corde de rappel. Et en fait, une fois qu'elles sont sur place, elles ont peut-être leur cœur de métier, mais elles ne se rendent pas compte de toutes les casquettes qu'il y a à côté. Donc, en fait, alors, ceci dit, c'est vrai que le régime de l'auto-entrepreneuriat, enfin bon, je vois vraiment toutes les difficultés qui viennent se greffer dessus. Mais par contre, je vais dire, bon, c'est quelque chose que même avant ça, quand j'accompagnais des professionnels, c'est quand même ce que la personne qui s'installe va rencontrer, c'est qu'elle a son cœur de métier, mais elle n'a pas vu toutes les casquettes qu'il y a à côté de gestion, de relationnel, d'organisation, de commercial, de voilà.
Et la micro-entreprise enlève une ou deux petites casquettes par rapport à la création d'une entreprise, mais en effet, il y a quand même encore beaucoup de casquettes.
Oui, mais là, ce qu'elle va simplifier, si vous voulez, c'est peut-être la démarche administrative. Voilà, c'est juste ça. Mais après, en termes de marketing et commercial, en termes de s'organiser, en termes de gestion, en termes de relations à l'argent, en termes de relationnel avec les gens, de savoir poser des limites, d'avoir une vision de développement de son entreprise, de se remettre en cause, etc. Ça, c'est la même chose. Que vous soyez en société, que vous soyez en BNC, que vous soyez en SARL, en micro-entreprise, c'est… Voilà. Parce que moi, justement, je n'interviens pas, si vous voulez, sur la partie, on va dire, juridique. Alors, ça, ce n'est pas du tout mon business. Mm-hmm. C'est tout le reste. Ce qu'on va appeler plus la posture entrepreneuriale.
Oui, l'attitude. Donc, comme dans le titre du livre…
Voilà. C'est-à-dire que c'est un livre qui est très pratique, qui permet aux personnes de se poser les bonnes questions. Que ce soit avant de s'installer, parce que j'ai vu tellement de personnes qui partaient parce qu'elles en avaient marre de leur chef, parce que bon voilà, une fois arrivées sur place, alors Par exemple, je pense à certains, quelqu'un, un commerce, au bout de 2 mois d'ouverture de commerce, elle en avait marre. Parce qu'elle ne s'était pas rendue compte de ce que c'était. Surtout un commerce. Voilà. Hein? Donc, c'est se poser les bonnes questions, voir où sont les difficultés, comment on peut les négocier. Voilà.
OK. Donc, au switcher qui passe par là, d'où l'importance de la période d'exploration avant de passer à la période de lancement. Ça fait partie de tout le processus, ouais, de la reconversion. Super. Est-ce que vous pourriez définir le mot développement personnel ? J'ai l'impression que chacun a sa propre définition, qu'on y met des choses hyper différentes derrière. Quelle est la vôtre ?
Alors, en 2 lignes. Non, ça ne sera pas en 2 lignes.
En 20 minutes, on a le temps.
En fait, développement personnel. C'est vrai que c'est le sujet pour tout. Il y a tout et n'importe quoi. Mais si on regarde ce que c'est, comme son nom l'indique, c'est le développement de la personne. Et une personne, elle est composée d'un corps physique, elle est composée d'émotions, d'une physiologie au niveau physique, n'est-ce pas ? Donc d'émotions, d'un mental. Et puis un autre niveau, on va dire d'énergie, d'un corps spirituel. Donc ça veut dire que le développement personnel va s'adresser, pour moi, à toutes ces couches. Par exemple, vous pratiquez du yoga, vous vous adressez en apparence au début au corps. Je dis bien en apparence parce que des fois, vous avez des personnes « Ah ben, je dors mal, mon médecin m'a dit de faire du yoga. » Ok. D'accord ? Bon. Vous savez, je vais vous dire, la danse, pour moi, peut faire partie aussi du développement personnel parce que la personne va se sentir mieux, parce que là, en fonction de la forme de danse qu'elle va faire, il y a quelque chose. Après, je crois que c'est une histoire de conscience intérieure.
Hein? Le théâtre aussi. Hein? Le théâtre semble être un outil très puissant.
Voilà, ça peut parce que la personne va s'exprimer. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est un domaine qui est extrêmement vaste. Est-ce que dedans, on y rentre la thérapie ? J'ai envie de vous faire une réponse de Normande, vous dire oui et non.
Quand vous dites thérapie, c'est psychothérapie ?
Psychothérapie, oui. D'accord. Pour moi, c'est vrai que lorsque je parle thérapie, je fais quand même beaucoup plus référence à la psychothérapie. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait de la thérapie, si vous voulez, par exemple, vous avez des problèmes de dos, vous allez aller chez un kiné, il est homologué, il a une profession, il sait les manipulations à faire, le travail à faire, vous avez des hernies discales, vous avez… Bon, voilà. Ensuite, la thérapie… Dans le sens large du terme, les personnes y vont parce qu'elles se sentent mal. Sauf que des fois, vous en avez, je pense à quelqu'un, moi, qui était venu, qui était à la dernière limite du burn-out. Il avait l'eau là, d'accord ? Donc, la prochaine étape, c'était je coule. Cette personne, il dormait plus de la nuit, avec des idées noires, etc. Pour moi, ça relève d'un travail qui va jouer sur, déjà dans l'immédiat, comment on fait descendre l'eau, donc il y a une urgence, donc travailler à ce niveau-là, et ensuite pouvoir aller au niveau du fond, voir un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est un travail global qui va travailler à la fois sur l'émotionnel, le psychisme, le relationnel, etc. Donc, c'est vrai que je crois que le problème de la thérapie, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le fourre-tout et on ne se rend pas bien compte, quand on est usager, que ce n'est pas un petit coup de plumeau pour enlever les émotions. Parce que des fois, ça peut. Voilà, il y a des choses un petit peu plus profondes. Et puis, ensuite, Pour les personnes qui sont, elles, accompagnantes, on accompagne de l'humain avec ses difficultés. Et que les structures psychiques, faut quand même les connaître parce qu'aujourd'hui, et ça, il n'y a pas que moi qui le dis, mais beaucoup en psychothérapie, beaucoup de thérapeutes, on va dire, se rendent compte qu'il y a, vraiment un gros problème avec des gens en grande fragilité. On parle d'ailleurs dans les entreprises des risques psychosociaux. Mmh. Et ce n'est pas marqué sur le front. Une personne qui a un risque de suicide, ce n'est pas marqué sur le front. Et des fois, vous ne le voyez absolument pas. Vous voyez, donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je mets vraiment des bémols. On ne peut pas accompagner les personnes comme ça, sans un travail solide sur soi. Il ne suffit pas d'avoir une bonne volonté de vouloir aider les gens. Pour moi, c'est loin de suffire parce qu'aujourd'hui, on est à un changement, si vous voulez, de conscience, des vieux paradigmes. On est en train de passer sur des nouveaux paradigmes. Ça va vite, le changement, mais en même temps, tout ce qui est de l'ombre, c'est-à-dire qui n'a pas été mis en lumière, et toutes les fragilités, elles sont aussi exacerbées. Mm-hmm. D'où le pourquoi il y a aussi autant de malaise, autant d'arrêts de travail avec bon, des fois des maladies graves, des problèmes de dépression, des burn-out, des trucs comme ça. Même si, on va dire, un certain niveau terminage, la personne elle est en fragilité et il faut pouvoir l'accompagner, savoir à qui on s'adresse.
Ok, si on reprend du coup sur la définition de développement personnel, j'ai l'impression qu'il reste un petit...
J'ai pas une définition, je vous expliquais la personne, par quoi elle était composée.
Donc, sur les quatre plans.
Sur tous ces plans. Donc après... vous avez des personnes qui vont dire « je fais du développement personnel parce qu'elles vont faire une thérapie », d'autres parce qu'elles font de l'énergétique. À partir du moment, j'ai envie de dire, où on grandit, hein, parce qu'en fait, on est, en tant qu'être humain, on a à grandir, à évoluer au niveau de notre conscience. Donc, le développement de notre personne touche aussi le domaine professionnel, ça c'est clair, hein, c'est pas séparé et chacun commence par là où il peut parce qu'il est en recherche, parce qu'il est en souffrance. C'est vrai qu'en général c'est rarement ouais bon alors je vais bien, et non, souvent c'est parce que il y a la souffrance. Donc ça amène à démarrer quelque chose, mais après pour moi il n'y a pas de définition, ça touche ces différents plans. Ça peut passer par différentes techniques, différentes démarches. J'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte.
Hmm. Ok. L'intuition dans tout ça, est-ce qu'elle est connectée nécessairement au développement personnel? Est-ce que c'est un sujet complètement différent? Comment vous voyez ça?
Alors moi déjà, j'ai toujours une approche, je vais dire, globale. D'accord? Si vous voulez, j'ai mon bras droit. J'ai mon bras gauche. Dans ma vie, je fonctionne dans un ensemble, dans une harmonie avec mes deux bras. Au bout de mes bras, j'ai mes mains. Au bout de mes mains, j'ai mes doigts. D'accord ? J'ai deux jambes qui sont valides avec lesquelles je peux marcher. Quand je marche, je passe d'une jambe à l'autre. Donc, c'est un ensemble. Pour moi, il n'y a pas l'intuition d'un côté, puis je ne sais pas quoi de l'autre. L'intuition, elle est intégrée à nous. Parce que je vous ai dit au début, on est un être spirituel ayant une expérience humaine. On perçoit le monde, notre réalité, avec nos cinq sens. Mais quand on prend les traditions orientales, ces cinq sens, ils ont un prolongement subtil, on appelle ça les sens subtils. C'est un peu comme des antennes, si vous voulez, qui vont nous permettre de capter autour de nous, dans le non-local. Et ça va se passer par quoi? Par quelque chose qu'on va appeler l'intuition, qui va avoir plusieurs degrés. parce que selon les personnes, il y en a qui ont, on va dire, plus ou moins d'intuition. Pour moi, on en a tous, mais on ne sait pas l'écouter. On est trop dans nos doutes, on est trop pris dans notre mental.
Ok, donc ça pourrait valoir le coup d'apprendre à la développer ?
Apprendre à l'écouter, ah, ça c'est clair.
Est-ce que vous avez un petit conseil pour aider ceux qui nous regardent et qui aimeraient apprendre à écouter leur intuition ?
Ben, déjà, c'est apprendre à se poser, à faire des arrêts, des stops, revenir à soi. Parce qu'en fait, ce qui nous éloigne de notre intuition, c'est qu'on est toujours dans le mental, dans le contrôle, dans l'analyse, dans le jugement de soi, des autres, dans « je veux faire ci, je veux faire ça ». On s'identifie à notre business, à notre posture, à notre… voilà. Bon, ok, on fonctionne dans cette réalité comme ça et c'est important et savoir faire avec, mais il y a un moment, il faut savoir couper. Alors, moi, personnellement, je suis une grande méditante. Je médite tous les jours depuis, voilà. J'accompagne les gens d'ailleurs à travailler avec la méditation pour adapter justement à ce qu'elles font, pour justement revenir à soi. Parce que, en fait, aujourd'hui, c'est ça qui est le plus difficile, c'est revenir à soi. On est soit dans le passé, entre ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce qui aurait dû être, et puis le futur, ce que je vais dire, et si ça se passe comme ci, si ça se passe comme ça, et si ça se passe pas, mais l'instant présent. Mmh. L'intuition, c'est vraiment que dans l'instant présent qu'elle peut venir.
Ok. Est-ce qu'on peut connecter ça avec la pleine conscience ?
On peut connecter quoi avec la pleine conscience ?
Le fait de, pour développer l'intuition, vivre dans l'instant présent. Et donc, peut-être pour ceux pour qui la méditation, c'est encore un peu compliqué, est-ce que la pleine conscience pourrait être une première étape un peu plus facile ?
Alors, je vais vous demander qu'est-ce que vous appelez la pleine conscience, parce que visiblement, on n'a pas la même notion de ce que c'est.
Ce sont des techniques... on peut dire peut-être de méditation, mais dans lesquelles on n'est pas nécessairement assis pendant 10 minutes. Ça peut être couper ses carottes en pleine conscience, marcher dans la forêt en pleine conscience.
Ok. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans mon livre là.
D'accord.
Bon, je vous explique quelque chose. En fait, si vous voulez, quand on parle de la méditation, c'est assez, en fait, je crois qu'il y a une confusion entre le départ et l'arrivée. Les gens pensent que pour faire de la méditation, déjà, il faut être calme. Non, la méditation conduit au calme, d'accord ? Dans la méditation, il y a plusieurs, entre guillemets, techniques. Il va y avoir ce qui vient plus de l'Inde avec, par exemple, la répétition de mantras, qui sont des sons sacrés, qui viennent des Védas, qui sont les textes il y a plus de 7000 ans, et qui permettent de couper le mental et d'aller au-delà, et d'avoir un certain calme. Donc ça, c'est une voie, un des outils de méditation. Après, il y en a aussi, toujours qui viennent de l'Inde, ça va être de se concentrer sur des dessins géométriques, style mandala. Voilà. Alors, c'est vrai que ces deux premières voies ne sont pas forcément les plus utilisées. Ensuite, vous avez le zen qui vient de la voie bouddhiste, mais un petit peu plus japonaise. Et puis, vous avez ce que vous m'avez appelé la pleine conscience, c'est-à-dire le mindfulness. Mm-hmm. Voilà. Et en fait, le mindfulness se réfère à la tradition bouddhiste de vipassana. Donc, ça, c'est la forme complète. Et le mindfulness, c'est un petit peu plus allégé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mindfulness ? C'est la pleine conscience. Et devenir conscient, présent à ce qui est là. Chose que, soit dit en passant, toute forme de méditation fait. D'accord ? Que ce soit parce qu'on va revenir sur le souffle systématiquement avec le zen, que ce soit parce qu'on va revenir sur le mantra, je vais dire, on se rejoint. Par contre, le mindfulness est connu parce que, si vous voulez, c'est par cette voie, donc ça fait partie du bouddhisme le plus ancien, Theravada, le Vipassana, et donc ça a été un petit peu allégé avec le mindfulness pour occidentaliser. Ils se sont aperçus, notamment avec John Kabat-Zinn, que ça avait des effets, parce que oui, la méditation nous amène des effets au niveau physique, physiologique, au niveau mental, émotionnel, etc. Mais effectivement, vous pouvez pratiquer cet état de présence, que ça soit être assise. Par exemple, là, je vous parle, je suis en présence. Je sens mes fessiers sur ma chaise. Je sens le milieu de mon dos. Je sens que là, j'ai mes épaules tendues, je les lâche. Je sens que mon ventre est relâché. Je sens où est ma respiration et je vous parle. D'accord ? Après, je peux fermer les yeux, me poser sur mon souffle, accueillir tout ce qui est là, d'accord, sans jugement, sans, parce qu'il n'y a pas de, comment on dit en français, pas d'expectation, d'attente dans la méditation. Et une fois qu'on fait ça, effectivement, on va pouvoir le déplacer dans notre vie quotidienne. Dans mon livre, là, dont je vous ai montré, il y a peut-être 76 exercices, dont passer l'aspirateur, se brosser les dents, repasser, conduire, mais on ferme pas les yeux, hein, mais être présent. Voilà. Ça peut être se promener. Voilà. Moi, personnellement, j'adore travailler, enfin, faire de la méditation. Donc, c'est une méditation active. Quand je coupe mes légumes et en particulier les oignons. Je coupe tout petit, et je suis présente à mon souffle, présente à mon corps, présente à ce que je fais. Donc, je ne sais pas si ça vous répond.
Oui, très bien, très bien. Qu'est-ce que vous pensez de l'occidentalisation du bouddhisme et de toutes ces traditions asiatiques ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'on doit développer ça ? Est-ce que c'est adapté aux occidentaux ? Comment vous voyez tout ça ?
Alors, personnellement, je ne vois pas d'occidentalisation du bouddhisme. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. La philosophie bouddhiste qui part du constat de la souffrance, je suis désolée, c'est universel. D'accord ? Et comment, effectivement, par la présence, tout ça, on peut aller à la cessation de la souffrance ? Si vous voulez, ça s'adapte autant aux orientaux, qu'aux occidentaux, que s'il y a des gens sur Mars, je pense, s'ils vivent comme nous, ça doit s'adapter aussi.
D'accord.
Voilà, je crois qu'il ne faut pas confondre, si vous voulez, éventuellement, une pratique peut-être plus religieuse, comme chez les bouddhistes tibétains, où vous allez avoir une dévotion avec certains bouddhas, d'accord ? Qui c'est en France, mais c'est bien dans les monastères, c'est bien en référence, ça n'a pas été occidentalisé. La seule chose qui est traduite, c'est quand vous avez un lama qui vient, c'est traduit en français. Mais quant à la philosophie bouddhiste, elle est pour moi universelle. Elle est universelle.
Ok.
D'accord, c'est deux choses différentes.
Ça répond à la question, c'est nickel. Très bien. Dernière question, qu'est-ce que le mot économie intuitive évoque chez vous ?
Alors, économie intuitive. Alors, il y a déjà le terme intuition, il y a le terme économie. Le mot qui me vient, ça serait harmonie.
Ok.
Mais je vais vous dire très franco ce que je pense. Je me pose la question, est-ce qu'en économie intuitive, les gens ont bien les pieds sur terre et une bonne gestion aussi ? Vous voyez, ça m'amène ce questionnement. Donc, je suppose que si vous m'amenez cette question, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière, peut-être un concept qu'en tout cas, moi, je ne connais pas, mais où je suis très intéressée d'en savoir plus.
Ok, super. C'est tout simplement le nom de mon blog qui m'est tombé dessus un jour. C'est pas moi qui ai choisi le mot et donc depuis.
D'accord. Et c'est en lien avec l'économie.
C'est ce que je cherche à comprendre comme vous.
Alors, je vais vous donner quelque chose parce que là, j'ai une connexion. Bon, c'est que, en fait, si vous voulez, économie, c'est vrai, on le parle au niveau financier. Mais l'économie, ça peut être aussi… vous voyez, le premier mot qui m'est venu tout à l'heure, c'était harmonie. Et c'est marrant parce que j'avais zappé que c'était le nom de votre blog. Bon, j'aime les moments où ça se passe comme ça. En fait, si vous voulez, je vous ai dit, pour moi, c'est harmonie. Mmh. Harmonie et équilibre. Vous voyez, quand je donne un cours de yoga, que les personnes vont bouger, vont par exemple se relever, j'en ai, elles s'assoient, pouf, comme ça. Je leur dis non. Utilisez la logique du corps, c'est-à-dire la logique de développement du mouvement dans le corps qui fait qu'il n'y a pas d'effort. Et ça, c'est une logique qu'on trouve intuitivement lorsqu'on a un lumbago, par exemple. Pour vous lever du lit, vous savez vous tourner sur le côté, vous appuyez, de travailler, si vous voulez, sans effort. D'accord ?
Très bien.
Et ça s'appelle, je crois qu'on connaît tous, ouais. Ça s'appelle l'économie du geste, pas la fainéantise, l'économie, vous voyez, c'est-à-dire être dans, en fait, ce qui est juste. Quand vous êtes debout, que vous êtes dans un aplomb de posture, il y a un équilibre musculaire, il n'y a pas plus de tension d'un côté de l'autre, juste ce qui est juste. Et ça, c'est une économie, vous voyez.
Mm-hmm.
Donc, l'économie, ça ne concerne pas que le côté économique financier. Vous voyez ?
Ouais.
Je pense que peut-être c'est dans ce sens-là. Où est-ce que les choses peuvent être en équilibre dans ce que je veux faire, en étant relié en moi et en étant relié peut-être à un petit peu plus grand que moi.
C'est ça. Moi, je le comprends un peu dans ce sens-là aussi, de économiser ses efforts au lieu de si je suivais le mental, peut-être que je ferais tous les couloirs du labyrinthe, alors que si j'écoute mon intuition, potentiellement, je peux aller sur un chemin plus court que mon mental n'est pas capable de voir. Donc, ça permet d'économiser du temps, de l'énergie. Bon, c'est une interprétation possible. En tout cas, il y en a plein et j'adore découvrir celle que chacun capte. Super, merci en tout cas d'avoir partagé ça. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot pour toutes les personnes qui nous regardent, qui sont dans cette phase de quête de qui ils sont, de quelle est leur mission de vie et peut-être dans les starting blocks pour se lancer dans la grande piscine et créer leur propre projet?
Alors moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas non plus se bloquer sur quelle est ma mission de vie, parce que des fois, on le cherche et ça reste mental. Ça doit passer par le cœur, ça peut évoluer, c'est quelque chose aussi qui se construit au fur et à mesure de notre développement personnel, de notre croissance intérieure, je préfère ça. Ensuite, de croire en soi, de chercher sa spécificité. Et puis, je ne me rappelle plus, vous m'avez posé une autre question.
Pour les personnes qui veulent entreprendre, peut-être ?
Oui, qui veulent entreprendre. C'est vraiment de se poser les bonnes questions parce que ça engage beaucoup de choses à tous les plans. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas que au niveau du cœur de métier. On n'est plus, lorsqu'on entreprend, on vit... nous sommes la source de nos propres revenus. Il n'y a plus de patron derrière nous pour nous payer. On sort d'une logique de salarié. Et c'est sortir de sa zone de confort. Donc, il y a plein de personnes qui ne s'en rendent pas compte. Donc, on ne peut plus penser comme ça par rapport à l'argent. Donc, c'est de se poser les bonnes questions en amont, d'avoir une vision de son projet. Et pas qu'une vision business plan, parce qu'un business plan, on lui fait dire ce qu'on veut pour plaire aux banquiers. Donc, ça, c'est important. Prendre le temps, parce que je ne suis pas certaine non plus que tout le monde soit fait pour s'installer.
Exactement.
Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Hein? Voilà.
Ok, génial. Merci beaucoup, Laurence, pour cet échange, pour toutes ces informations. Je mettrai donc en description de la vidéo les liens vers votre site, vers vos
livres aussi. Ceci dit, je peux le rappeler là, mon site, si vous voulez.
Ah, oui, on va l'écrire, oui.
Voilà, donc mon site, c'est www.laurenceluyetané.com. Et pour les professionnels et les entreprises, c'est smartattitude.fr.
Voilà. Génial.
Merci de cette interview.
À bientôt.
À bientôt.